Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la presse, auditeurs, auditrices de Radio Okapi. Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire des Nations Unies en RDC. Comme d'habitude, nous vous donnerons quelques informations sur les activités des composantes de la MONUSCO, puis les activités de l'équipe pays avec notamment Sylvestre Toumba Moudigaye et Dorothée Clerc. Et puis enfin, nous terminerons par rejoindre le colonel Félix Prosper Bassa Goma qui nous donnera quelques informations sur la situation militaire dans le pays. Voilà donc pour les titres, le sommaire de cette conférence de presse que nous ouvrons tout de suite avec donc les activités des composantes de la MONUSCO. Division de l'information publique, hier mardi 18 février, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a animé une séance d'information avec les étudiants de l'université de Kinshasa et Unikin. Le thème, le mandat et le rôle de la MONUSCO à RDC, la reconfiguration de la mission. Plus de 500 étudiants de toutes les facultés de l'université de Kinshasa ont pris part à cette séance d'information qui s'est déroulée en présence de M. Lassé Labana, recteur de l'université de Kinshasa, du corps professoral et des membres de l'administration académique. Cette activité a été organisée donc par la division de l'information publique en partenariat avec la coordination des étudiants de l'UNIKIN, le mouvement international des étudiants laïcs catholiques. Par ailleurs, Radio Okapi émet à Zongo depuis samedi dernier à 13h. Cette information sur la mise en onde de Radio Okapi s'est propagée rapidement à travers la ville de Zongo et la population se dit satisfaite. Une dizaine de radios centrafricaines sont captées à Zongo, mais Radio Okapi est l'unique radio basée en RDC qui émet à Zongo en ce moment. Radio Okapi est donc captée sur un rayon de 15 km en zone montagneuse et au-delà de 30 km dans les zones sans collines. Des efforts sont en cours pour étendre cette zone de couverture afin de toucher les camps de réfugiés centrafricains situés à 36 km de Zongoville. Soutien de la MONUSCO à la restauration et l'extension de l'autorité de l'État dans les zones affectées par les conflits. Le procès Minova s'est poursuivi devant la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu cette semaine avec l'ouverture d'une audience foraine à Minova, territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu le 11 février dernier afin d'entendre les victimes. Ce procès bénéficie de l'appui de la communauté internationale, notamment celui de la MONUSCO sur les aspects de protection des victimes et témoins, du monitoring et de la sécurisation des lieux d'audition. Les trois acquittements relatifs à des infractions militaires ont déjà été prononcés dans le cadre de ce dossier. Les 39 prévenus restent toujours poursuivis, dont certains en leur qualité de supérieure hiérarchie pour des infractions graves commises par leurs unités. Durant la semaine écoulée, la mission a organisé divers ateliers et rencontres avec les autorités provinciales au sud Kivu, au nord Kivu et dans la province orientale, afin de promouvoir et de sensibiliser les autorités provinciales et locales, les chefs de collectivités et de territoires, à l'utilisation du guide à l'usage des autorités territoriales, ce guide constituant un outil permanent d'opérationnaliser le programme de décentralisation. Enfin, la MONUSCO participe conjointement avec le PNUD et la Harvard Humanitarian Initiative à un projet de collecte de données sur la consolidation de la paix et de la reconstruction de la RDC. Ce projet vise à mieux comprendre les perceptions des populations en matière de justice et de sécurité. La MONUSCO participera activement à cette étude de perception. Le projet est en phase 1 de sa mise en œuvre. Voilà donc pour les activités des composantes de la MONUSCO. Tout de suite, nous allons passer la parole à l'équipe pays, notamment avec Dorothée Clerc. Bonjour Dorothée.
Bonjour Charles, bonjour aux auditeurs. Pour commencer, je voudrais revenir sur une question qui a été posée la semaine dernière par une journaliste au sujet de l'insalubrité de la prison de Goma et qui demandait au PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, ce qu'il comptait faire pour y remédier. Alors, voici quelques précisions utiles. La prison de Goma est composée de plusieurs parties et en effet, les prisonniers sont actuellement tous rassemblés dans l'aile supplémentaire qui a été construite et équipée par l'UNOPS, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, qui a travaillé avec cette entreprise locale congolaise et en collaboration avec la MONUSCO. La construction et l'équipement de l'aile supplémentaire prévue pour accueillir 140 détenus a été financée par le Fonds de consolidation de la paix, un fonds qui rassemble plusieurs bailleurs, ainsi que le Canada et le PNUD. C'est un projet réalisé dans le cadre de la stratégie de stabilisation de l'Est de la RDC en appui au STAREC. Cette annexe à la prison a été remise aux autorités congolaises en janvier 2013, donc il y a plus d'un an. De plus, des fonds supplémentaires du Fonds de consolidation de la paix, toujours, ont également permis de remettre en état les quartiers des mineurs ainsi que des femmes qui ont été pillées en novembre 2012 lors de la prise de Goma. Ces travaux sont terminés et ont été remis eux aussi aux autorités congolaises le 20 septembre 2013, donc il y a plus de 4 mois. Les conditions de vie et d'hygiène des détenus ne sont pas bonnes dans cette prison, ça c'est en effet. Il y a environ 140 places pour environ 800 détenus à l'heure actuelle. Mais comme cela a déjà été souligné la semaine dernière, la maintenance du bâtiment, l'approvisionnement en nourriture aux détenus ainsi que les conditions de détention sont du ressort des autorités congolaises. Cela dit, le PNUD a lancé un micro-projet d'activités génératrices de revenus au sein de la prison de Goma. Ces activités visent à améliorer les conditions de vie et de sécurité de la prison en proposant des formations en coupe-couture, bloc-bâtiment et gestion de poulailler. L'objectif est que ces activités permettent aux détenus de s'engager dans un processus de réinsertion en vue de leur libération. Environ 3000 personnes, dont 40% de femmes, sont impliquées dans un tournoi de football dans la zone de Mitiombo, au sud de Kivu. C'est l'une des activités mises en place par l'ONG Union pour l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone, l'UEFA, qui a reçu du PNUD le mandat de conduire des initiatives de cohésion sociale autour de cet axe Mitiombo. Le tournoi de football veut promouvoir le rapprochement des communautés et de toutes les couches sociales de la population de la région de Bunyakiri. Ces activités prennent place dans le cadre du projet conjoint PNUD-UNICEF-FAO d'appui à la stabilisation du Sud Kivu par le relèvement socio-économique durable et le renforcement des capacités de prévention et résolution des conflits des populations locales retournées, rapatriées et relocalisées dans les zones de retour situées autour de l'axe Mitiombo. Le tournoi de football qui a débuté le 9 février dernier se clôturera ce 30 mars. 3000 personnes donc sont impliquées pour permettre à 12 équipes de football de s'affronter au niveau sportif. Elles sont composées de différentes catégories de jeunes de l'axe Mitiombo, notamment des élèves, étudiants, enseignants, mais aussi ex-combattants, démobilisés, petits vendeurs, artisans, ainsi que des services de l'ordre public, de l'armée et de la police. 5 ministres provinciaux étaient présents à la cérémonie d'ouverture, ainsi que les autorités civiles, policières et militaires, et des responsables de confessions religieuses. La cohésion sociale doit être une priorité dans la province du Sud Kivu et une opportunité pour la population de Bunyakiri, qui a vécu depuis près de 2 décennies des conflits armés et non armés. Un climat d'entente et de confiance s'est instauré entre les militaires, les policiers et les jeunes ex-Raia Mutemboki qui réintègrent spontanément la vie civile. Ce projet renforce la pacification entre familles, communautés et catégories sociales et surtout cultive un climat de confiance entre et avec les jeunes. Hier, le PNUD a remis officiellement au gouvernement congolais les bâtiments réhabilités de la cellule technique d'appui à la décentralisation, la CTAD. Dans son nouveau cycle de programmation de 2013 à 2017, le PNUD est déterminé à poursuivre son appui à la décentralisation et à la gouvernance locale en RDC, car elle permet de promouvoir le développement à la base et rapproche les gouvernants et les gouvernés pour une meilleure participation des populations aux affaires publiques. Elle garantit également la consolidation de la paix et l'inauguration de ces bâtiments de la cellule technique d'appui à la décentralisation confirme donc la volonté du PNUD d'appuyer les autorités nationales de la RDC dans leurs efforts vers la décentralisation à l'échelle provinciale et locale ainsi qu'à la gouvernance participative. La CTAD, donc cette cellule, est une structure spécialisée du gouvernement en charge du suivi et de l'application des décisions et des orientations du comité interministériel de pilotage, de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation. La réhabilitation des bâtiments de la CTAD, financée par le PNUD, a été effectuée en 5 mois. Le coût global des travaux atteint près de 114 000 dollars. Merci Charles.
Merci Dorothée pour ces quelques informations. Tout de suite la parole à Sylvestre Thomas Moudigaï qui va lui nous faire un condensé de l'actualité sur l'humanitaire en RDC cette semaine.
Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de Radio Capi. Plus de 67 000 personnes déplacées retournées des familles d'accueil ont bénéficié du 10 au 17 février des foires aux vivres dans les territoires de Masisi, Lubero et Walikale, dans la province du Sud Kivu. Certaines personnes sont déplacées depuis juillet 2012. Chaque ménage a pu bénéficier des coupons alimentaires d'une valeur variant entre 60 et 95 dollars américains. Ce montant a permis un approvisionnement en vivres d'un mois, organisé par le Programme alimentaire mondial en collaboration avec des ONG partenaires Oxfam et Conseil norvégien pour les réfugiés. Ces foires ont été financées par le Bureau humanitaire de la communauté européenne ECHO. L'insécurité en République centrafricaine et au Soudan du Sud pousse certains Congolais au rapatriement volontaire. Plus de 6200 Congolais rapatriés spontanés en provenance de ces deux pays ont été identifiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans les districts du Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé, ainsi qu'en territoire d'Arou, dans le district de l'Ituri. Vu la persistance de l'insécurité dans ces pays, il est à craindre l'arrivée de nouvelles vagues de rapatriés spontanés. Le Programme alimentaire mondial et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont en train de planifier un mécanisme d'aide en faveur de ces rapatriés spontanés. Des milliers de caprins sont décimés depuis plusieurs mois par une maladie dans la région dans le sud du territoire de Shabunda, dans la province du Sud Kivu. Cette épizootie a été confirmée par une mission d'évaluation menée du 7 au 14 février par une équipe de médecins vétérinaires sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Déjà en novembre dernier, une alerte faisait déjà état de la mort de 20 000 caprins dans les localités de Kibamba, Matili, Nyakulungu et Penekusu suite à cette maladie dont les signes sont notamment la diarrhée, les écoulements oculaires, nasaux, buccaux et des difficultés respiratoires. Cette maladie affecterait également près de 1000 chèvres dans les localités du territoire de Mwenga, frontalière à Shabunda au sud-est. L'analyse des échantillons laboratoires permettra l'identification des souches responsables de la maladie afin de mieux préparer les actions de riposte appropriées. Dans les régions affectées, l'élevage constitue la principale source de revenus.
Sylvestre, merci. Direction Goma, nous allons retrouver deux habitués de cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies depuis Goma. Donc, tout d'abord, le colonel Félix Porcerbas qui nous donnera quelques informations sur la situation militaire. Puis ensuite, notre invité, le général Carlos Dos Santos Cruz, le commandant de la force, qui nous donnera quelques informations complémentaires donc, sur cette situation militaire. Colonel, c'est à vous. Nous n'avons pas de son, colonel. Je ne sais pas si la technique...
Aucun incident majeur ne fut rapporté durant la semaine écoulée. En province orientale, les forces indigènes et congolaises poursuivent la conduite de 3 opérations conjointes dans les Hauts et Bas-Ouélé et maintiennent à cet effet l'environnement sécuritaire sous leur contrôle. Le climat sécuritaire dans le district d'Ituri a été jugé globalement calme la semaine dernière, mais demeure imprévisible dans certaines localités situées au sud du territoire du Rumu, suite à la présence des miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri, FRP. En outre, la force de la MONUSCO et l'armée congolaise mènent sans relâche dans cette partie du pays leurs opérations conjointes dénommées pierre d'acier, terre de l'aigle et coup de patte du tigre. Au nord Kivu, la situation sécuritaire a été marquée par la poursuite des opérations militaires menées par l'armée congolaise contre les rebelles ougandais de l'Alliance des Forces Démocratiques, ADF, avec le soutien de la force de la MONUSCO. Le 13 février 2014, les militaires congolais ont pris le contrôle du pont Sibiliki ouvert l'axe Mbao-Kamango en faisant jonction le 15 février avec une autre unité dont la base de départ fut Kamango. Le 15 février, un véhicule militaire des forces gouvernementales, ayant à son bord trois journalistes et faisant mouvement vers Kamango, est tombé dans une embuscade tendue par des éléments armés supposés appartenir à l'Alliance des forces démocratiques, au cours de laquelle un journaliste a été tué et deux autres grièvement blessés. Le même jour, environ 500 individus ont trouvé refuge auprès du poste opérationnel de la force de la MONUSCO de Nyabiondo dans le territoire de Masisi, suite au combat ayant opposé les troupes gouvernementales aux éléments de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS dans la région de Bukombo, située à 12 km à l'est de Nyabiondo. Les casques bleus mènent des patrouilles dans la région dans le but de dominer le terrain et de protéger les populations civiles. À la même date, les affrontements ont opposé les troupes FRDC aux éléments de l'Alliance pour un Congo libre et souverain dans la région de Kachébéré cette fois-ci, toujours en territoire de Masisi, provoquant le déplacement de 200 civils qui ont trouvé refuge auprès de notre base opérationnelle déployée dans cette localité. Les casques bleus ont immédiatement déployé des unités de réaction rapide et des hélicoptères d'attaque pour mener des patrouilles terrestres et aériennes dans le but d'interdire toute progression des éléments de l'APCLS et rassurer les populations civiles. C'est ainsi que le 16 février 2014, le bataillon népalais de la force de la MONUSCO a déployé un poste opérationnel dans la région de Nobili dans le but de sécuriser les populations civiles, mais aussi de soutenir les FRDC dans la conduite de leurs opérations de nettoyage. Le 17 février 2014, d'intenses combats ont opposé les troupes FRDC aux éléments APCLS à Kachébéré, au cours desquels la force de la MONUSCO a déployé ses unités de réaction rapide pour protéger les populations locales et soutenir les troupes congolaises dans la reconquête de Kachébéré. Le même jour, les FRDC ont lancé une contre-attaque, récupéré les positions de l'APCLS situées à Bukombo ainsi qu'à Nyabiondo et repoussé les miliciens vers le nord en direction de Lukweti. Du 9 février 2014 à ce jour, et la récolte est bien maigre, nous avons enregistré 6 éléments en provenance de différents groupes armés, dont 2 éléments des FDLR notamment et du groupe Maïmaï Nyatura. Au sud Kivu, l'environnement sécuritaire, quoique imprévisible, est cependant demeuré sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. En effet, les casques bleus déployés dans cette province poursuivent la conduite de leurs 8 opérations, dont 7 unilatérales et une conjointe avec l'armée congolaise. Dans plusieurs régions situées au nord de la province du Katanga, la situation sécuritaire a été jugée volatile et imprévisible à cause de la résurgence des activités des éléments Maïmaï Gédéon et Pakata Katanga, particulièrement dans les territoires de Pueto, Manono et Mitwaka. En effet, durant la période sous examen, la coalition radicale Moussalaba des Maïmaï Bakata Katanga a lancé une série d'attaques contre les populations civiles dans les villages situés dans le triangle de la mort, mettant ainsi en pratique leur politique de la terre brûlée. Le secteur 2, quant à lui, il est très calme. Enfin, concernant nos statistiques, nous avons mené 1281 patrouilles armées, dont 554 nocturnes, et fourni 30 escortes, pendant que 264 autres patrouilles ont été réalisées par les observateurs militaires de la force. Je vous remercie de votre attention.
Merci, colonel. Nous restons à Goma avec le général Carlos dos Santos Souza qui a des informations complémentaires sur ce volet militaire. Général, c'est à vous.
Okay, good morning.
Bonjour.
Just to complement some more updates from the ground.
Juste pour compléter un peu les informations sur le terrain.
Yesterday I've been in Beni, in Kamango, in Nobili. I had the opportunity to travel until the border to Uganda.
Hier, j'ai effectué un voyage à Kamango, Nobili, Mbao, et j'ai eu l'opportunité de me rendre juste à la frontière avec l'Ouganda pour évaluer la situation sécuritaire.
We have the FRDC there controlling the whole route from Mbao to Nobili, to the border.
Les FRDC contrôlent présentement l'axe Mbao-Kamango jusqu'à Mobili, le long de la frontière avec l'Ouganda.
And we have more troops now as well from MONUSCO in Kamango and Mobili.
Et nous avons aussi projeté des troupes additionnelles aussi bien à Kamango qu'à Mobili.
And the coordination with General Bahuma to have more joint operations together to the last phase against ADF.
Une étroite coordination a été réalisée avec le général Bahouma en vue de lancer des opérations conjointes pour mettre un terme aux activités des ADF.
And the some improvements as well, some modifications in the logistic supports to adapt to that kind of operation in order to have more support to the soldiers in combat.
Nous avons aussi discuté du réaménagement du soutien logistique apporté au FRDC pour pouvoir mieux adapter le soutien qu'on leur apporte sur le terrain et poursuivre l'opération qu'ils ont lancée.
Basically, that's the modification in the picture then, that area.
Ce sont là les quelques réaménagements qui ont été effectués dans cette partie du pays.
Here in Nord Kivu, after some days of the problems around Bukombo, Nyabiondo and Kashibere.
Ici au Nord Kivu, après les problèmes liés à la sécurisation des populations civiles dans la région de Nyabiondo, Bukombo et Kashibere,
FRDC has perfect control on the situation at this moment, pushing the CLS to the north.
Aujourd'hui, l'armée congolaise contrôle totalement cette région-là en repoussant les velléités de l'Alliance pour le Congo libre et souverain vers le nord.
Katanga. Everybody knows that we have a small contingent in Katanga.
Au Katanga, comme vous le savez, nous avons un contingent, un effectif assez faible au Katanga.
Anyway, we are going to deploy immediately one contingent in Pweto.
Mais nous allons immédiatement procéder au déploiement d'une unité à Pweto pour prendre en compte la sécurité.
Because Pweto is one of the points of the Triangle de la Mort.
Parce que Pweto fait partie du Triangle de la Mort.
And then it's one support to have one result in specific place, not in the whole Katanga, because it's a huge state.
Donc nous procédons à ce déploiement pour pouvoir prendre en compte la situation sécuritaire dans certaines parties, pas dans tout le Katanga qui, comme vous le savez, est assez grand, mais au moins dans certaines parties du triangle de la mort.
Basically, the situation in Katanga, we have thousands of FARDC, and then our participation will be more located in one specific place.
Il faudra comprendre qu'au Katanga, nous avons un volume très faible comparé aux FRDC qui ont des milliers d'individus, mais nous allons prendre toutes les mesures pour prendre en compte la menace sécuritaire dans certaines parties du triangle.
Ok, thank you.
Merci.
Voilà, merci général. Cela marque donc la fin de la première partie de cette conférence de presse. Deuxième partie va être ouverte maintenant.